Moving On présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
Mobility Stories, sur la route, édition spéciale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode des Mobility Stories sur la route, une édition spéciale des Mobility Stories en direct de Cerisy, en région Normandie, où se déroule le colloque intitulé « Comprendre la route entre imaginaire, sens et innovation ». Un rendez-vous incontournable pour entrepreneurs, chercheurs, scientifiques, experts de la route avec un R majuscule. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, la route du futur. Pourquoi ? Parce que sans aucun doute, la route qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Pour répondre aux défis environnementaux, de congestion, d'adaptation aux nouveaux modes de mobilité, la route du futur devra être plus durable, plus intelligente, plus sûre. Elle sera sans doute plus connectée aux véhicules et aux infrastructures, plus économe en énergie, plus durable au cœur même de sa conception des matériaux utilisés. Comment la route va devenir bien plus qu'un simple espace de déplacement ? Quelles vont être les innovations de rupture ? À quoi va ressembler la route des 20, 30, 50 prochaines années ? Je suis Antoine Perrin, bienvenue dans ce nouvel épisode des Mobility Stories sur la route, proposé par Moving On en partenariat avec l'Express. Et pour en parler, je suis entouré de Pierre Copé, PDG de Vinci Autoroutes, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bernard Jacob, professeur à l'université Gustave Eiffel, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et puis Julien Vic, bonjour à vous, délégué général du SER, le syndicat des équipements de la route.
Bonjour Antoine.
Merci du coup tous les trois d'être avec moi dans ce nouvel épisode. Donc comment la route va pouvoir répondre aux enjeux de demain, aux enjeux environnementaux, aux enjeux de congestion urbaine, à tous ces enjeux? Première question que je vous pose à vous, Pierre Copé.
Mais je crois qu'il faut déjà partir de réalités qui sont tout à fait qui sont chiffrées. Il y a en France plus d'un million de kilomètres de réseau routier et près de 90% des déplacements empruntent la route. C'est-à-dire que quand vous avez enlevé le ferroviaire, le fluvial et l'aérien, il reste près de 90% des déplacements qui empruntent la route, qu'il s'agisse du fret ou du transport de personnes. Mais une fois qu'on a compris l'essentiel des émissions de carbone des transports vient de la route, il faut décarboner la route.
Est-ce que la route, donc pour vous, la route du futur sera clairement décarbonée, est-ce qu'elle le sera aussi dans son intrinsèquement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va demain utiliser, vous, chez Vinci Autoroutes, des matériaux particuliers pour créer la route du futur ?
Il y a effectivement un projet sur lequel, qui paraît futuriste, mais qui est, je crois, au fond très concret et très réaliste. Vous savez que les normes européennes prévoient la disparition du véhicule léger thermique à horizon 2035 et la bascule en véhicule électrique. On attend imminemment la même norme pour les poids lourds. Et la question que ça pose, c'est est-ce qu'on construit des véhicules et des camions notamment qui transportent des tonnes de batteries, ou est-ce qu'on fait de la route? On met dans la route un système d'alimentation un peu à l'image de votre circuit de petite voiture quand vous étiez petit, votre circuit 24. Vous avez un système d'induction ou un système de rail qui permet d'alimenter.
Ça existe, ça ?
Ben, ça existe, c'est en test dans plusieurs pays. Ça existe en Israël, ça existe en Suède. Il y a des expérimentations un peu partout. Vinci avons gagné l'appel d'offres organisé par l'État pour tester sur l'autoroute A10 deux tronçons de route électrique, l'une avec un rail, l'autre avec un système d'induction. On va faire deux tronçons de 2 km pour voir comment ça fonctionne.
Bernard Jacob, vous êtes professeur à l'université Gustave Eiffel. Justement, vous avez travaillé sur cette route électrique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
La première chose, pour bien comprendre quel est l'intérêt de la route électrique, on part d'un principe de physique vraiment élémentaire que tout le monde peut comprendre. L'électricité est très facile à transporter et très compliquée à stocker. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a compris que vouloir mettre dans un véhicule
des grosses
la
batteries,
quantité d'électricité nécessaire pour faire une longue distance, c'est une mauvaise idée. Contrairement au pétrole, au diesel ou à l'essence qui se stocke bien dans un réservoir tout simple et qui permet d'avoir une grande quantité d'énergie stockée. Donc, le principe de vouloir faire que des batteries n'est pas une bonne idée. Effectivement, comme le disait Pierre Copé, on va pas, si les camions ne transportent plus que des batteries, ils ne serviront à rien. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas de batteries. Tous les véhicules électriques devront avoir des batteries avec des autonomies limitées. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir prolonger l'autonomie au-delà de la capacité d'une batterie qui, elle, doit faire les trajets du quotidien, les trajets de courte ou moyenne distance. Après, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a les solutions de bornes de recharge le long des autoroutes qui se développent, mais qui, là encore, ne feront pas le job à 100%
parce qu'il faut s'arrêter.
Il faut s'arrêter d'abord, il faut de l'espace. Si vous voulez avoir 200 voitures qui se chargent et 40 poids lourds, vous imaginez le stockage, mais surtout, il y a une question de puissance. Pour l'instant, vous avez des parkings d'autoroute où il y a 8 ou 10 bornes voitures. Donc, c'est des puissances de quelques centaines de kilowatts. C'est très facile. Si on veut pouvoir charger 50 poids lourds et 200 voitures en même temps, il faut 70 mégawatts. C'est deux fois la puissance totale installée sur un aéroport comme Charles de Gaulle. Ça ne passe même plus en 20 000 volts avec un réseau Enedis. Il faut du réseau à haute tension, RTE. Il faut un système de transformation qui occupe presque un hectare. Enfin, on arrive à des échelles totalement différentes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas développer des bornes de recharge sur les autoroutes, mais ça ne fera pas le job pour tous les véhicules. Et donc, c'est un complément. Il faut aussi d'autres solutions. Donc, l'ERS ou la route électrique, Electric Road System en anglais, est un système qui consiste à délivrer l'électricité aux véhicules tout le long de l'itinéraire. Évidemment, pas sur les 1 million de kilomètres de route française, mais il a été fait des études à l'échelle de la France que si on équipait environ une dizaine de milliers de kilomètres, notamment les autoroutes concédées, et les grands itinéraires, on pouvait mailler le territoire et aucun point ne se trouverait à plus que 120 ou 125 km d'un réseau équipé. Et que donc, si les véhicules avaient 250 km d'autonomie, ils pouvaient aller n'importe où en France, y compris en aller-retour sans se recharger à destination.
Oui, parce qu'ils passeraient à un moment donné sur une route, sur une route électrique ou une autoroute électrique et se rechargent en même temps pour continuer la route.
Et donc, en roulant. Donc, pas de perte de temps. Pas de concentration de puissance, que la puissance est délivrée tout au long de l'itinéraire. Et l'idée serait d'équiper une voie, au moins pour commencer la voie de droite, sachant que les véhicules n'ont pas besoin d'être en continu et alimentés, contrairement aux locomotives électriques qui, dès qu'elles sortent, s'arrêtent. Là, vous avez quand même la batterie. Donc, quand la batterie est chargée, vous pouvez effectuer un dépassement, effectuer un tronçon sur une voie médiane ou de gauche de l'autoroute non équipée. Et vous pouvez sortir également de l'autoroute pour aller ailleurs.
Donc là, on regarde à 10, 20 ans, 30 ans ou
disons,
un peu
moins. On a évalué que le jour où il y aurait une décision politique de déploiement de ces systèmes, il fallait environ 5 ans pour déployer la moitié du linéaire, 4 à 5 000 km, si on y mettait les moyens, et 5 ans de plus pour faire l'autre moitié. Je parle sous contrôle des autoroutiers, mais les autoroutiers savent gérer des grands travaux. Et il y a une voie équipée, donc la plupart des autoroutes ont deux, voire trois voies par sens, donc il est possible de faire les travaux sans couper complètement l'autoroute.
On va revenir ensuite, Bernard Jacob, sur la technique, comment on électrifie cette route. Je voulais revenir d'abord avec Julien Vic sur justement la sécurité autour de ces routes et les équipements. Vous êtes délégué général du syndicat des équipements de la route. Ça va ressembler à quoi demain? Cette route du futur, est-ce que justement l'équipement sera connecté à ma voiture? Quand ma voiture lira le panneau 80, elle va décélérer toute seule? Comment ça fonctionne?
Le grand débat, c'est qu'on va changer de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipement, le panneau de signalisation, la ligne blanche, le marquage routier, le feu tricolore, il est vu, lu et perçu par l'œil humain. Demain, avec l'avènement du véhicule connecté, on va passer à l'œil du véhicule, c'est-à-dire avec les radars, les lidars, les différentes caméras qui devront effectivement pouvoir lire la route.
C'est-à-dire que c'est le véhicule qui va parler à la route ou la route va parler au véhicule.
Exactement, il va y avoir une interaction entre le véhicule et la route, hein, donc ça c'est tout à fait notable. Et l'autre élément aussi qui est important, c'est qu'on a besoin pour avoir un véhicule qui soit connecté, automatisé, on a besoin d'avoir une redondance, c'est-à-dire que tout ne sera pas embarqué dans des satellites ou dans d'autres types de réseaux. On reviendra aussi à un besoin de matérialité réelle et concret où le véhicule vient se raccrocher un peu comme en navigation maritime avec les différents amers. Hein. Donc là, on peut imaginer que demain sur la route, les amers de la route pour le véhicule connecté, ce sera effectivement ces panneaux de signalisation, ces différentes lignes blanches, ces feux tricolores, ces différentes glissières qui maillent le réseau routier français.
Des équipements de la route qui parlent aux voitures, mais pour quelles raisons en fait? Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de congestion? Est-ce qu'on va gagner aussi là-dessus dans le futur?
On va gagner aussi en congestion. Ce qu'on peut imaginer par exemple, c'est que le feu tricolore, si je prends cet exemple-là, demain il pourra donner certaines priorités aux véhicules de pompiers, aux différentes ambulances, aux véhicules qui respectent aussi, ça se fait déjà donc avec ce qu'on appelle les feux verts récompenses, aux véhicules qui ont une vitesse régulée et en respect des différentes réglementations. Tout ça, c'est des solutions qui existent et qui existeront demain et qui permettront aussi de réduire l'impact carbone des transports, quoi.
Pierre Copé, on parle aussi d'une route qui pourrait fabriquer de l'énergie. Est-ce que ça existe? Les panneaux solaires sur la route, à côté de la route, est-ce qu'elle va commencer à produire sa propre électricité?
Oui, on estime que dans la projection de ce que nous avons travaillé sur le déploiement des panneaux photovoltaïques le long des réseaux, aujourd'hui, on a déjà identifié près d'un millier d'hectares sur le seul réseau Vinci Autoroute sur lequel on pourrait produire l'équivalent de la capacité d'un réacteur nucléaire, c'est-à-dire de l'ordre de 900 mégawatts.
Bernard Jacob, je reviens avec vous sur la route électrique. Comment ça se matérialise? Parce qu'elle sera peut-être à induction, peut-être qu'il y aura vous parlez éventuellement d'un rail sur lequel la voiture viendra se connecter. Comment ça va fonctionner? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus qui peut être le plus prévisible?
Donc c'est la technologie soit des caténaires, le principe du rail. Donc on met des caténaires, sauf qu'il faut mettre deux caténaires parce qu'il n'y a pas de retour par le sol.
Alors caténaire, c'est-à-dire que le véhicule est rechargé par le haut.
Par le haut, il y a un pantographe comme sur les TGV, sur les trains. Ça c'est la première technologie, mais qui a comme inconvénient de ne pouvoir assurer l'alimentation que des poids lourds. Il faut des véhicules assez hauts, donc ça élimine les voitures, les vules, tous les petits véhicules, donc ça ne représente que 25 à 30% des émissions de CO2, donc c'est assez limité.
Mais, donc ça, on ne prend pas.
La France n'est pas très chaude, l'Allemagne est plutôt partie là-dessus, mais pour une partie.
Oui, depuis peu d'ailleurs, voilà. L'annonce allemande s'est faite en début d'année, je crois.
Ensuite, la deuxième technologie, c'est la technologie d'un rail dans le sol. Donc, c'est un rail intégré dans la chaussée.
C'est-à-dire que moi, sous ma voiture, j'ai quoi?
Vous avez un patin qui est sur un petit bras articulé qui, automatiquement, quand le véhicule détecte qu'il est au-dessus du rail, le patin se descend, se met au contact du rail, vous captez l'électricité pendant que vous êtes sur le rail, et si vous changez de voie, ou vous déboîtez, ou vous quittez l'autoroute, le patin se relève et vous repassez automatiquement sur la batterie. Donc, pendant que le véhicule est connecté, non seulement il roule en utilisant l'électricité qu'on lui fournit, mais il recharge en plus sa batterie, parce que la quantité de courant est quasiment illimitée.
Ça nécessite évidemment d'installer
le fameux rail, ça demande des travaux, et puis ensuite un peu de maintenance, il faut s'assurer que ça ne dégrade pas la chaussée. Il y a déjà pas mal de questions qui ont été analysées sur l'adhérence, il ne faut pas que ça crée des points de mauvaise adhérence pour les motos, les voitures, il ne faut pas que ça soit... Bon, mais tout ça a déjà été pas mal étudié. Et puis l'autre solution, la troisième, c'est l'induction. Donc ce sont des boucles émettrices, donc inductives, donc en cuivre, qui sont enterrées dans la chaussée environ à 8-10 cm de profondeur dans la chaussée. Et les véhicules, poids lourds ou voitures, ont sous leur plancher d'autres boucles réceptrices. Et donc il y a un transfert d'énergie par induction, donc sans contact. Alors c'est très élégant, ça plaît beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'on peut, surtout qu'on sait faire, on le voit à la maison quand on pose notre téléphone.
Ça marche très très bien. D'ailleurs, il y a déjà des bus qui se rechargent à des arrêts de bus pendant quelques minutes de l'arrêt en statique. Ça marche très très bien. C'est plus compliqué quand le véhicule roule à 80 ou 100 km/h et notamment pour transférer la puissance nécessaire pour les poids lourds. Un poids lourd de 40 tonnes à qui il faut fournir 300 kW de puissance.
Par induction, ça marche
pas. Par induction, pour l'instant, on est limité à 80-90 kW. Les Américains travaillent sur des projets à 200 kW, mais c'est encore assez futuriste. Et donc, on est un peu limité.
Pierre Copé de Vinci Autoroute, pardon. Du coup, je me tourne vers vous. Quelle solution vous allez choisir et quelle solution vous avez en tête?
C'est très exactement l'objet de l'expérimentation. Et donc, nous partons dans ce projet d'expérimentation avec l'ambition de tester ces deux technologies avec les questions de puissance, d'inductivité, de conductivité, de sécurité, de viabilité. Tout ça doit être testé. Et alors on le fait
c'est testé où, pardon?
Ça va être testé sur l'autoroute A10 à la sortie de Paris avant Saint-Arnoult, au kilomètre 8, qui est une chaussée sur laquelle il y a 4% de déclivité, ce qui permettra de faire des tests de puissance sur les poids lourds et effectivement de mesurer si À 200 mégas, ça passe, 200 kilowatts, pardon, ça passe.
Mais donc, vous êtes accompagné par des constructeurs que, parce qu'aujourd'hui, il existe des poids lourds capables de recevoir l'induction. Alors, ou même d'avoir un rail.
On est accompagné, on est sur des technologies qui sont encore expérimentales. Mmh. Et la technologie, ce qui est compliqué, ce n'est pas le poids lourd. Ce qui est compliqué, c'est les technologies de charge et de charge mobile des poids lourds électriques. Bien sûr, ils existent.
Les poids lourds électriques avec cette petite.
Oui, bien sûr.
Comment on appelle ça, ce patin qu'on peut mettre.
Bien sûr, c'est pas ça. Ça, n'est pas,
ça, c'est pas le problème.
Ça n'est pas un problème de technologie sur les.
Sur les véhicules.
Sur les véhicules. C'est un sujet de induction-conduction, pour faire simple.
Bernard Jacob.
La route de cinquième génération, c'est effectivement une route qui intègre énormément de nouvelles technologies. C'est une route qui est dans un système. Ça n'est plus qu'un support de véhicule physique. C'est une route qui est dans un système de transport intégré dans lequel vous avez le véhicule, le conducteur et l'infrastructure et éventuellement l'énergie également. Et tout ça dialogue ensemble. Donc la route du futur ou dite de cinquième génération, c'est une route qui doit avoir un certain nombre de propriétés. Elle sera en partie automatisée. Elle sera lourdement instrumentée. Elle sera connectée au véhicule, aux conducteurs, voire aux centres de gestion, comme les centres autoroutiers. C'est une route qui doit être résiliente, notamment au changement climatique et à d'autres agressions, qui peut être auto-réparante, se diagnostiquer elle-même et avoir certaines technologies qui permettent que, si vous avez des fissures, par exemple, elles puissent
se réparer par elles-mêmes. Incroyable.
Voilà, il peut y avoir. Ce sont des technologies sur lesquelles il y a des travaux.
Au matériel.
Sur les matériaux, il y a des matériaux, notamment. C'est une route qui doit être sobre en énergie, aussi bien à la construction qu'à l'usage, donc avec une bonne adhérence, mais des coefficients de frottement limités pour limiter la consommation des véhicules. On pense à des biomatériaux qui peuvent progressivement remplacer les matériaux type asphalte d'origine pétrolière.
Ouais.
Donc,
okay.
Il y a
encore
des
le cas aujourd'hui,
notamment sur des algues qui pourraient produire
des bitumes.
Voilà, exactement. Ensuite, comme
des liants végétaux.
J'ai dit également,
des liants végétaux.
Voilà. Donc, c'est une route résiliente, connectée. Qui s'auto-diagnostique.
Pierre Copé, pardon, on parlait de liants végétaux. Je vais revenir sur cette construction, cette production de la route de demain qui doit être plus verte. Est-ce que tout ça aussi, ça fait partie de la route du futur? Il n'y aura plus de bitume, plus d'asphalte. Elle sera aussi plus durable dans sa construction même.
Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire que le bitume est un produit qui a de nombreuses qualités et une grande efficacité mécanique. Il y a aujourd'hui des produits qui sont testés, mais qui ne permettent pas de sonner la fin du bitume, mais qui permettent de faire des expérimentations qui sont assez concluantes.
Question à tous les trois.
Et puis, on peut également, lorsque l'on cherche, comme c'est le cas, à décarboner la route, si on organise les chantiers de façon différente, nous avons, chez Vinci Autoroutes, avec nos entreprises de travaux, testé sur des chantiers, sur de grands chantiers, des process d'optimisation qui nous permettent de réduire de plus de 50% la production, les émissions de carbone d'un chantier, en améliorant les rotations, en recyclant, recyclant énormément. On arrive maintenant à utiliser plus de la moitié de matériaux issus de recyclage. Et donc, ça évite de chauffer et ça permet d'économiser les émissions de carbone au stade du chantier. C'est vrai également des rotations, c'est vrai également de l'organisation et de l'ordonnancement du chantier qui sont autant de façons d'économiser lors de la construction des routes.
Question à tous les trois, est-ce que la route du futur sera mieux intégrée dans le paysage? Est-ce que ça, c'est un sujet déjà qu'on se pose aujourd'hui?
Mais en fait, je pense que la route n'a cessé d'améliorer son insertion dans le paysage. La route la moins bien intégrée dans le paysage, c'est la route qui date des Romains et qui, à force d'élargissement et d'amélioration, s'est installée dans le paysage. Mais aujourd'hui, une route nouvelle, c'est une route dont on travaille la transparence hydraulique, dont on travaille l'amélioration paysagère, l'intégration paysagère, dont on travaille l'impact sur la biodiversité avec des passages à faune et avec un ensemble de dispositions qui protègent la biodiversité. Donc, je crois qu'on ne cesse de progresser dans ce domaine et que, c'est un des paradoxes, toutes les fois qu'on construit une route nouvelle, elle est infiniment mieux intégrée dans le paysage que les routes anciennes.
Julien Vic, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, aujourd'hui, les routes hein, s'intègrent parfaitement aussi dans les trames vertes. J'ai un exemple en tête du côté de Valence où on a équipé effectivement pour limiter les nuisances sonores, donc la route de murs anti-bruit. Et il y a eu un partenariat qui a été fait avec la Ligue de protection des oiseaux où sur tous les murs anti-bruit ont été déposés des différents nichoirs. Voilà, on voit ce type de partenariat qui se met en place. Et le sujet aussi important et à faire passer, je crois, c'est qu'on sait que la commande publique aujourd'hui doit être verte. Donc il y a dans les différentes collectivités des groupes de travail sur le sujet. On attend vraiment, alors moi, donc, représentant du syndicat des équipements de la route et des entreprises derrière qui font ces métiers-là, voilà, qu'il y ait une prise en compte de cette demande-là avec des vraies actions des autorités publiques.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi dans ce quatrième et dernier épisode des Mobility Stories sur la route. Une édition spéciale de ce podcast proposé par Movinone en partenariat avec L'Express.